Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Retrouvez dans cette libre antenne qui est à vous au 39-21. Les ponts du mois de mai s'enchaînent et j'espère que vous profitez de cette période pour souffler un peu et passer du temps avec ceux que vous aimez. Demain, par exemple, ce sont de précieuses journées pendant lesquelles vous pouvez prendre un peu de distance et rompre avec certaines de vos habitudes, comme parfois celle de ne pas faire un pas sans son téléphone portable. En voilà un bon exercice de déconnexion. Partir se promener sans lui et découvrir en rentrant que la Terre tourne toujours dans le même sens et que les messages reçus ne réclament aucune réponse à la minute près. Apprendre aussi à donner à notre cerveau des nourritures saines dans lesquelles il puisse puiser de la créativité et laisser libre cours à son imagination. C'est aussi cela, prendre un peu soin de vous, apprendre à vous recentrer, à naviguer avec vous-même et cheminer avec vos pensées. Alors nous sommes là aussi ce soir pour cheminer ensemble. Appelez-nous au 39-21. Florian et Hassan sont là pour répondre avec bienveillance à vos épreuves. Et c'est notre cher Fifi, Philippe Chartier, qui réalise ce soir cette émission avec toujours la même attention. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 3921. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21, en commençant votre texto par le mot « nuit » écrit en majuscule, ou nous joindre par mail libreantenne@europe1.fr ou la page Facebook Sophie Peters. Allez, ce sont vos témoignages qui donnent sens à cette émission. On attend vos appels. Bonsoir Marie-Odile.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Je merci de prendre mon appel et je voulais vous parler d'un de mes petits-enfants. C'est mon petit-fils, le dernier. J'ai 7 petits-enfants et c'est le dernier qui a 5 ans qui me pose problème. C'est un enfant qui, dès qu'il veut quelque chose, si on lui résiste, il part tout de suite dans la colère, et dans la colère violente. C'est-à-dire qu'il donne des coups de pied, il donne des coups de poing, il se met à hurler. Et là, moi, je ne sais plus quoi faire, parce que d'abord, au point de vue patience, ce n'est pas facile. J'ai remarqué que ses parents cèdent beaucoup, alors sans doute parce qu'eux-mêmes sont fatigués, tout ça, le soir. Alors bon, quand on a un enfant qui hurle et tout ça, ils ont sans doute tendance à céder. Mais j'ai remarqué aussi quand même que c'était un enfant qui avait encore sa place dans le lit conjugal.
Oula, à 5 ans.
Oui, à 5 ans, oui.
Bah oui.
Et quelquefois, le père se retrouve à l'extérieur du lit.
Et ça n'a pas
et
été
lui
le cas pour les
seul
autres.
Avec sa mère.
Vous dites que vous avez sept petits-enfants. Lui, c'est le septième d'une fratrie entière ou c'est sept de deux couples différents?
Ah non, deux couples différents.
Et lui,
j'ai 3 enfants.
D'accord.
Et lui, là, c'est
le dernier d'une
non,
fratrie.
Non, c'est le dernier. Il a un grand frère.
Qui a quel âge? Une grande différence.
Le grand frère a 8 ans. Il va avoir 9 ans bientôt.
D'accord.
Alors du coup, les parents favorisent ce petit et le grand frère, il se trouve exclu. Enfin,
bien sûr.
Ça me fait mal au cœur de voir ces deux enfants.
Et qu'est-ce que vous comprenez du couple des parents ou de la maman qui donne cette place-là à ce petit? C'est quoi votre analyse? Qu'est-ce que vous comprenez de cet enfant qui a 5 ans dort dans le lit conjugal, ce qui n'était pas le cas pour l'aîné, j'imagine?
Non.
D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous comprenez? C'est quoi votre analyse?
Moi, ce que je comprends, c'est que la mère, elle compense ce qu'elle n'a pas avec son mari.
Donc le couple a bougé depuis la naissance de cet enfant-là, ou peut-être même avant. Le couple va moins bien, manifestement.
Oui, moi j'ai l'impression.
C'est votre fils ou c'est votre fille?
C'est mon fils.
Vous le sentez malheureux, votre fils? Vous sentez quelque chose?
Mais il est très nerveux. Moi j'ai l'impression qu'il est mal dans son... Il est mal dans sa peau, quoi.
Oui, mal dans sa peau. Ou mal dans son couple, ou mal à son travail.
Oui.
Et
parce que... il se donne beaucoup dans son travail, oui.
C'est aussi intéressant quand vous dites qu'il est mal, parce que le petit garçon de 5 ans, qui a ces comportements-là, comme il est tout dans l'émotion, il met en œuvre quelque chose qui se joue entre les adultes. Donc ses colères, ses coups de pied, il se débat. Imaginez que lui soit pris dans un piège et sa façon de l'exprimer, c'est de se débattre. Donc oui, ça le rend colérique et vous arrivez effectivement pas à lui faire entendre raison. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs lui demander qu'est-ce qu'il veut vous dire avec ses coups de pied ou ses colères. Si vous pourriez.
Alors justement, voilà, quand il est dans la colère et dans ses larmes, il me dit des choses.
Ah,
et,
d'accord.
Et par exemple, il me dit « oui, personne ne m'aime ». Il me l'a dit, là, je l'ai eu la semaine dernière, il m'a dit « oui, personne ne m'aime, j'ai jamais de récompense ».
D'accord. Et vous pouvez à ce moment-là continuer un peu à enquêter en lui demandant…
Non, parce qu'il est…
Il est enfermé.
Oui.
Il est enfermé.
Il est enfermé dans sa colère, oui, c'est exactement ça. Il est enfermé dans sa colère.
Et très en souffrance. Hein. Personne ne m'aime, je n'ai jamais de récompense. Il est furieux. Donc, lui, de son point de vue, il vit une injustice de toutes ses cellules.
Oui.
C'est terrible, hein, les colères d'enfant, vous avez raison. Mais parce qu'il n'a pas d'autre possibilité d'exprimer ce qu'il vit autrement que par toute cette émotion à 5 ans. En tout cas, il a l'air de ne pas avoir sa place bien définie dans la famille.
Ben oui, mais alors c'est terrible parce que partout où il passe, c'est le même problème à l'école. Là, à la fin de l'année, il se fait renvoyer de l'école. Hein.
À 5 ans ?
Il est en deuxième année de maternelle. L'année dernière, il est parti de lui-même parce qu'il déménageait. Donc, il est parti de lui-même, mais le directeur était bien content. Et là, cette année, il va se faire renvoyer. Hein.
Mais on ne renvoie pas des enfants de maternelle. On dit aux parents d'aller voir un pédopsychiatre et de se faire aider.
Il est chez un pédopsychiatre.
Et qu'est-ce qu'en dit le pédopsychiatre?
Je dis, mais donnez-moi la clé aux parents, justement. Je leur dis, mais donnez-moi la clé. Qu'est-ce qu'il vous dit, le psy?
Oui.
Il dit, ben, j'ai rien. On ne me dit rien.
Ni le père, ni la mère.
Oui.
Oui, non, mais ils ont forcément des clés. La question, comme vous dites, c'est qu'ils ne vous en parlent pas. Mais ça fait longtemps qu'ils voient un pédopsychiatre?
Là, cette année, parce que justement, ça a commencé dès le début de l'année. Et donc, ils l'ont mis, il est allé voir, enfin, il est encore chez le pédopsychiatre. Et à chaque fois que je vois mon fils, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Donne-moi les clés, parce que quand j'ai cet enfant, surtout que je l'ai eu pas mal cette année...
Oui.
Je lui dis, mais donne-moi la clé, parce que moi, d'abord, il y a la patience. Moi, je suis la grand-mère. Hein. Mais ils me disent, on travaille ensemble, tout ça, mais ils ne me disent pas ce qui se passe.
Vous pourriez vous l'appeler, le pédopsychiatre, en disant que j'étais la grand-mère?
Je lui demandais aussi, donne-moi l'adresse, et puis moi, je vais aller la voir.
Oui.
Ça, je n'arrive pas à la voir non plus.
Ah oui, donc en fait, les parents restent dans un huis clos avec leur enfant, sans vouloir manifestement en sortir. Il y a une forme de huis clos dans ce que vous décrivez. Et quand vous le gardez avec son grand frère ou vous le gardez tout seul?
Oui.
Avec le grand frère. Et comment ça se passe avec le grand frère?
Le grand frère est agréable. Hein. Bon,
mais il se bagarre,
il se bagarre beaucoup. Mais l'aîné, il est intéressant, tout ça, mais... Je vois aussi que il était très bon à l'école, mais il commence à flancher aussi, lui.
L'aîné.
L'aîné, oui.
Bah parce qu'il n'y a pas de sécurité. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est bon à l'école? C'est qu'il n'a rien d'autre à penser ou à faire qu'à se concentrer sur son apprentissage. Voilà. Qu'un enfant décroche à l'école, c'est que sur le plan de l'énergie et de sa concentration, il est préoccupé parce que dans la famille ou autour de lui, il y a un environnement qui est instable. Et donc, ça empêche l'enfant de pouvoir être concentré parce que l'école lui demande beaucoup d'énergie et c'est fatigant pour eux d'aller à l'école. Donc, s'ils ont un univers qui est en eau trouble ou avec une certaine forme soit de violence, soit de tension, soit d'absence, d'affection, ils ne se sentent pas en sécurité et donc c'est comme s'ils étaient à l'école en mode un peu absent. Donc, ils décrochent un peu. Oui.
Alors moi, j'ai dit, sur le ton de la plaisanterie, je disais à ma belle-fille, Enfin, c'était même devant mon fils, il était là aussi. Je dis, mais de toute façon, avant de soigner l'enfant, il faut soigner les parents.
Oui, alors. Vous n'avez pas tort. Et alors, comment ça a été accueilli? C'est bien vu.
Tout le monde a pris ça un peu à la rigolade, mais enfin
ouais.
Bon.
Oui. Et ils y vont chez voir un psy, les parents? Non, pas vraiment.
Ben, moi, je le conseille à mon fils. Ouais. Je lui ai conseillé.
Vous lui avez dit à votre fils que... alors, pas en vous imposant vous, hein, Marie-Odile, mais en lui disant, tiens, comment toi tu vis le fait que le petit dorme dans le lit conjugal? Et toi, en tant que père, est-ce que tu comptes faire quelque chose de ça ou intervenir? Qu'est-ce que tu en penses?
J'en ai pas parlé. Enfin, ça s'est passé récemment parce que c'était chez moi, il dormait chez moi. Donc c'est là que je me suis aperçue.
Ah oui, parce que vous l'avez appris comment? Vous l'avez appris par l'enfant?
Alors d'abord l'enfant, parce que bon, les parents étaient sortis, donc enfin j'avais organisé un petit peu mon truc. Et puis le petit, au petit déjeuner, il était en face de moi, on prenait le petit déjeuner ensemble. Et c'est lui qui m'a dit, papa, il dormait sur le matelas par terre, parce que, donc j'en ai déduit que lui, il était resté dans le lit avec sa mère, quoi.
Sur le matelas par terre, à côté.
Oui. Ouais,
bon, ça ne veut pas dire qu'il dormait avec sa mère, hein. C'est parce qu'il a vu son père dormir sur un matelas.
Si, parce qu'il était dans le lit de sa mère. Puisque moi, j'avais mis au départ le petit, quand les parents étaient sortis, j'avais mis le petit dans le lit conjugal, et j'avais dit à ma belle-fille, bon, ben, quand vous revenez, vous mettez le petit sur le matelas, par terre. Et, bon. Et puis le lendemain, le petit m'a dit, non, c'est papa qui dormait par terre.
Mais parce qu'il y a un matelas dans la même chambre que les parents et le petit dort sur ce matelas.
C'est parce que j'avais tous mes petits-enfants et tout ça, donc j'avais mis des matelas par terre un petit peu pour coucher tout le monde. Quoi, parce que là,
quand c'est chez vous. Mais quand c'est chez eux, ça se passe comment?
C'est chez eux, c'est ma belle-fille qui m'a dit, on le prend souvent dans notre lit.
Ouais, pas à 5 ans.
Bah oui, c'est ce que je pense.
Ça lui crée pas de sécurité, en fait. Surtout qu'il devient un objet entre ses parents, il prend une place qui n'est pas la sienne.
Il prend la place du père aussi.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de tension pour lui, c'est trop de tension pour lui. Et vous voyez, c'est intéressant parce que quand il dit personne ne m'aime ou j'ai jamais de récompense, il ne voit même pas ça comme quelque chose de l'ordre d'un témoignage d'affection. Ce n'est pas comme ça qu'il le vit. Il comprend bien qu'il devient un objet entre les parents. Et qu'il n'est pas un sujet, qu'il n'est pas respecté dans son intégrité d'enfant. Vous l'avez dit, ça, à la mère, ce qu'il vous a dit, non, aux parents?
Non, je ne l'ai pas. Non, parce que les parents, en ce moment, sont à l'étranger. Et le petit, je l'avais à ce moment-là, et je n'ai pas revu les parents, là, ils ne sont pas encore rentrés.
Donc, ils sont chez vous en ce moment, les enfants?
Ils sont partis avec les autres grands-parents.
D'accord. Et ça se passe pareil? Vous avez un contact avec
les autres grands-parents aussi, ils ont des problèmes.
Et comment ils voient les choses, les autres grands-parents? Vous en avez discuté? Non, pas forcément. C'est délicat.
Oui, c'est délicat, d'abord parce que c'est leur fille, tout ça. Enfin, bon. Mais ils sont pas. Ils voient moins de choses que moi.
Oui, parce qu'ils l'ont moins. Oui.
Et puis en plus, je pense que c'est leur fille, alors il y a peut-être un voile aussi qui se met devant les yeux, je ne sais pas. Mais enfin, je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire, moi, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis du père, puisque c'est mon fils? Est-ce que je dois laisser passer? Est-ce que j'ai d'abord quelque chose à faire?
Oui, vous avez un rôle à jouer auprès de l'enfant? Alors pas de thérapeutique ou pas d'explication, mais d'être à son écoute quand il vous exprime des choses comme personne ne m'aime, j'ai jamais de récompense, de le laisser parler et d'enquêter un peu, de lui dire que c'est terrible ce qu'il vit. Quand il vous dit par exemple, même en criant et furieux ou en pleurant, les phrases qu'il vous a dites, de lui dire je savais pas que tu vivais ça, mais c'est terrible ce que tu vis. Vous voyez, de rentrer avec lui dans ce qu'il vit pour qu'il ait une véritable écoute et qu'il ait auprès de lui, alors qu'il plus est sa grand-mère, une adulte très présente, là pour lui. Il a besoin que vous soyez là pour lui. Et pas de le juger dans ses colères en mode « tu es un méchant petit garçon parce que tu n'es pas sage et que tu devrais bien te tenir ». C'est de prendre au sérieux sa colère.
Parce que
ça va la calmer. Tout d'un coup, il va se sentir écouté. Il n'aura plus besoin de hurler s'il sent qu'un adulte l'écoute. Il hurle pourquoi, ou il frappe, ou il tape, ou il est en colère parce qu'il ne se sent pas écouté, pas respecté. C'est un manque de respect. C'est un vrai manque de respect qu'il vit. Donc si vous, vous lui apportez ce dont il témoigne sans savoir le dire, parce que lui, il ne sait pas dire comme ça, il va trouver chez vous une forme de paix qui peut après faire tache d'huile, en tout cas à l'école ou ailleurs. Mais sans doute que ce que les adultes lui renvoient, c'est « tu n'es pas un gentil petit garçon, tu ne te comportes pas bien, tu es colérique, tu parles mal, tu frappes, ce n'est pas bien du tout, va au coin, enfin bon. » Et quand ça continue, vous voyez, ce genre d'approche, bien sûr qu'on peut raisonner ou aussi un peu éduquer un enfant quand il fait des certaines choses et lui dire « non, ce comportement, ça ne va pas, il apprend comme ça ». Mais là, lui, il n'est pas en apprentissage puisque ce comportement-là est là pour dire quelque chose de sa souffrance. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même... Il y a une distinction à apporter, il y a un discernement à avoir entre les deux états de l'enfant. Ce n'est pas ponctuel, vous avez l'air de dire que c'est récurrent et que ça s'installe.
Donc, ça s'installe, oui.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'il vit. Alors vous, évidemment, il y a votre façon d'être avec votre petit-fils. Et puis, vis-à-vis de votre fils, peut-être s'inquiéter de savoir comment il va, comment va son couple en tant que maman. C'est-à-dire là, vous reprenez votre habit de maman. Et qu'est-ce que vous feriez en tant que maman vis-à-vis de votre fils en prenant soin et en étant prudente bien sûr, mais en lui disant j'ai le sentiment que ça va pas bien, je suis un peu inquiète de ce que j'observe, mais toujours pareil, pas dans le jugement, pas lui faire sentir que vous trouvez que c'est un père qui est pas forcément à la hauteur ou qui l'assure pas, mais plutôt de lui tendre une main pour lui dire j'ai le sentiment que tu as peut-être des soucis, est-ce que tu veux qu'on en parle, est-ce que tu veux que je suis là si tu as besoin, juste ce mot-là.
Non, parce que ils adorent leurs enfants, mais j'ai l'impression qu'ils les aiment mal, quoi. J'ai l'impression qu'il manque un cadre là-dedans. Alors justement, quand il fait sa colère, j'ai eu le problème là, la semaine dernière à table. J'avais fait des lasagnes. Je veux pas de lasagnes. Tout ça. Alors il m'a fait une colère pas possible. Je lui ai dit, alors là j'ai résisté, mais je dis, non, t'as ça à manger, si tu ne manges pas, t'as rien d'autre. Enfin bon, alors je me suis dit après, j'ai peut-être été trop sévère pour lui, mais pour finir après, c'est lui qui m'a dit, je veux que tu m'aides à manger mes lasagnes.
Ah, c'est mignon, c'est touchant. Je veux que tu m'aides à manger mes lasagnes.
Bien sûr, je l'ai aidé. Ouais. Alors à la fin, je lui ai dit, puisque tu as mangé tes lasagnes, parce qu'il me réclamait des saucisses, vous savez, les saucisses bien industrielles, là, qui sont... Alors, je lui ai dit, puisque tu as bien mangé tes lasagnes, demain, je ferai les saucisses que tu aimes. Et ça y est, on avait fait la paix. Où est-ce qu'il fallait que je résiste ou est-ce que je cède ?
Non, ce que vous avez fait très bien, parce que vous avez fait ce qu'on appelle une négociation. C'est qu'il a fait quelque chose et vous l'avez remercié d'avoir mangé vos lasagnes que vous aviez cuisinées et en lui disant, finalement, moi aussi, je vais te faire plaisir demain parce que tu auras tes saucisses là sur lesquelles je n'adhère pas, mais enfin, je sais que... Donc, c'est une façon de lui dire, tu m'as fait plaisir, je te fais plaisir, on se fait plaisir. Et ça, c'est très fort ce que vous avez fait avec lui. Vous voyez, sans rester coincé sur votre... C'est important pour vous. Il a fini... En plus, il vous tend la main parce qu'il dit « je veux que tu m'aides, donc je veux que tu sois là pour moi ». Faites la traduction simultanée, c'est sa façon aussi de dire « je veux que quelqu'un soit là pour moi ». Et finalement, vous lui donnez une forme de récompense avec ses saucisses, lui qui dit qu'il n'a jamais de récompense. Vous l'avez récompensé symboliquement. Il les a eu ou c'est un repas qui n'a pas encore eu lieu ?
Ah non, il les a eu le lendemain. C'était la semaine dernière pendant les vacances scolaires.
Est-ce que du coup, il était... plus disposé dans cette journée-là ou plus calme? Ça s'est mieux passé, la journée?
La journée en entier, le repas s'est très bien passé, ça c'est sûr. C'est vrai que dans la journée, c'est très souvent, ces colères et tout ça, ça revient très souvent. C'est pas une colère comme ça qui temps en temps. Non, ça revient très souvent. Alors, au point de vue, et même pour moi, c'est épuisant.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il faut de la patience.
Oui, il faut beaucoup de calme intérieur. C'est-à-dire montrer que ce n'est pas quelque chose... Ne cherchez surtout pas à résoudre quelque chose. Parce que, en fait, le souci, c'est qu'en tant qu'adulte, on voudrait qu'il se calme. Et donc, on cherche à résoudre, donc à trouver une solution.
Oui.
Et en fait, ce n'est pas ça le sujet. Vous n'avez rien à résoudre. Il n'y a pas en soi un problème. Il n'y a pas quelque chose à faire. Il y a plutôt à être dans une position de temps long, de patience, de confiance, de montrer que ça ne vous ébranle pas tellement plus que ça, mais que vous accordez beaucoup d'importance à ce que lui vit. Non pas, c'est un peu inversé. Là, ce que vous vivez, c'est lui qui a un pouvoir sur vous parce que vous êtes ébranlé par ses colères. Et il le sent.
Et ça le met
en insécurité, d'ailleurs. Parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur la sécurité de l'adulte qui reste solide malgré ce que lui vit. Alors qu'il aurait besoin, dans ce qu'il vit de bouleversant, dans tous les sens, d'avoir en face un adulte un peu solide sur lequel s'appuyer. S'il voit que l'adulte, ça le met aussi en colère, ça l'énerve, etc., alors là, il est encore plus perdu. Ça augmente ses colères. Et donc, c'est un affrontement. Et donc l'adulte lui dit, il faut que tu te calmes, et moi, j'en peux plus, et tu m'énerves, et il va crier encore plus. On voit des fois des scènes comme ça dans les magasins ou dans la rue entre enfants et adultes. Et en fait, ce qui va l'aider, c'est d'avoir un adulte assez posé qui est pas tellement ébranlé, mais qui est très à l'écoute de ce qu'il est en train de vivre, en lui disant je suis là, je comprends, ça a vraiment l'air d'être difficile pour toi, tout ce que tu vis, de compatir, d'être avec lui. Et là, il va se dire, il se passe quelque chose, en fait. C'est vraiment important d'être dans cette écoute-là, plutôt que de subir finalement un peu les colères de l'enfant.
Oui, parce que c'est pas évident, parce que quand il pique ses colères et tout ça, de rester patiente et tout ça, c'est pas évident. Et même dans un magasin, je ne l'ai pas emmené dans les magasins parce que je me dis, mais s'il me pique ses colères en plein magasin, parce qu'il va certainement aller au rayon jouets, et moi je dirais non, tu ne vas pas avoir de jouets, et s'il se roule par terre et tout ça, mais qu'est-ce que je fais? Moi, dans un magasin, ce n'est pas évident.
Vous pensez que ça peut être le cas
il en est capable, Enfin, je l'ai jamais vu, je l'ai pas vécu parce que justement je me suis abstenue de l'emmener dans un magasin, mais il y a urgence presque que dans un magasin quand un enfant se met à hurler et tout ça,
de sortir immédiatement avec lui, de lui expliquer que c'est pas possible de se comporter comme ça, qu'il y a plein d'autres personnes, que ça va déranger. Et que donc son comportement, et que vous pouvez comprendre que quelque chose ne lui aille pas, mais ce n'est pas le lieu de faire une différence, de dire oui, il y a quelque chose que tu vis. Et c'est de mettre des mots. En fait, ce qui va aider l'enfant, parce qu'à cet âge-là, il n'a pas la conscience de ce qu'il vit, et comme il est complètement envahi par ses émotions, si un adulte est là pour lui parler beaucoup, mettre des mots, plutôt que de tirer par le bras parce qu'on a honte pour le sortir du magasin, c'est ça qui va l'aider, en fait.
D'accord.
Donc, plus vous allez mettre des mots, plus vous allez mettre de la compréhension, plus ça va l'aider. Ouais. Alors, il y a un auditeur qui me demande là, jusqu'à quel âge peut-on dormir avec son enfant? Alors, moi, je vais répondre, il n'y a pas d'âge. On ne dort pas avec son enfant dans la chambre. C'est pas possible. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour le couple. Absolument pas, parce que c'est pas bon pour le fait. L'enfant, il doit comprendre. D'abord, il doit avoir son intimité, son intégrité. Alors, bien sûr que s'il a un souci, on vient le voir, ou s'il est malade, il y a bien sûr des cas exceptionnels. Mais on sait très bien que ça va si un enfant pleure, mais on sait très bien aujourd'hui il a besoin aussi d'avoir son lieu de vie à lui et de ne pas être mélangé avec la vie de ses parents.
Non, parce que normalement, chez lui, il a sa chambre, et chez nous aussi, il a sa chambre. Hein. Enfin, moi, j'ai eu trois garçons, j'ai jamais eu un de mes enfants dans mon lit. Hein. Mais c'est pas, il paraît que ça se fait beaucoup en ce moment.
Aux États-Unis, ça s'appelle le family bed. oui, c'est assez en vogue. Bon, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, ça pose pas de problème majeur. Hein. On peut avoir un enfant dans son lit. Après, c'est que lui va plus supporter de se retrouver seul dans un lit ou dans une chambre. C'est aussi ça que ça va poser comme problème.
Alors, justement, au niveau du sommeil, là, quand je l'ai eu la semaine dernière, pendant deux nuits de suite, il se levait la nuit. Alors moi, je vous disais, il est un cauchemar, mais un peu comme un somnambule. Enfin, il était là, il errait dans la maison. Enfin, et j'étais un peu surprise. Enfin, je sais pas. Je me suis dit, c'est du somnambulisme ou c'est il est pris par son rêve ou
je sais pas. Bah peut-être. Il se lève et vous le retrouvez en fait.
Il sort de sa chambre et puis il va dans le couloir, là, comme ça. Enfin, il n'a pas descendu les escaliers, quand même. Mais, alors, de toute façon, il n'a pas eu le temps parce que je l'ai repris puis je l'ai guidé vers son lit. Mais j'étais surprise qu'il soit, parce qu'il était complètement perdu. Enfin, il n'était pas réveillé, quoi. Il était.
Mais il a peut-être, hein, il est peut-être tellement en ce moment occupé par tout ce qu'il vit et parce que c'est aussi un signe d'anxiété chez les enfants le somnambulisme. Donc
oui,
bon
oui.
Peut-être ça peut-être oui, ça peut-être que vous pourriez dire aux parents pour qu'ils en parlent au pédopsychiatre parce que ça semble important de voir ça peut-être avec lui.
Et c'est ce qu'on appelle le somnambulisme ou je ne connais pas du tout moi, ce genre de.
Bah, le fait de se lever la nuit étant endormi, oui, absolument.
Oui. Bon.
Oui, donc. Bon, moi, vraiment, je pense que plus vous allez être. Ah oui, bah, il y a Laurence qui dit ma fille a dormi avec moi jusqu'à 13 ans. Bon. Après chacun effectivement fait ouais. Alors c'est intéressant parce qu'il y a Jocelyn qui vit donc au Japon hein, qui est un fidèle auditeur qui dit qu'en Asie on dort avec nos petits jusqu'à un certain âge. Sa fille de 3 ans a sa chambre et si elle veut dormir dans son lit elle y dort, mais si elle veut dormir avec nous elle vient, surtout parce que le bébé d'un an dort avec sa maman, mais elle dort très bien quand elle dort dans sa chambre.
Oui, c'est ça, oui. Bon, et puis, ça dépend aussi peut-être du contexte, enfin du contexte familial.
Des contextes familiaux, des cultures, absolument, absolument. Après, là, il se trouve qu'il y a aussi un autre enfant qui a 8 ans, donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. La question que ça pose, c'est surtout quand ça chasse un des deux parents. Parce que là, ce que je comprends dans le message de Jocelyn, il dit « la petite de 3 ans dort avec nous ». Le père dort sur un matelas par terre et la mère dort avec le fils. C'est plutôt ça aussi qui pose.
Oui, mais enfin, quand même, l'intimité du couple là-dedans, je ne sais pas ce qu'il en reste. Enfin, quand il y a un enfant au milieu, c'est un excellent moyen contraceptif.
En tout cas, pas pour la nuit, non, mais bon, il y a peut-être d'autres moments ou d'autres. Voilà, c'est peut-être pas toutes les nuits. Mais oui, ça peut être une façon aussi de créer une distance dans le couple. Oui, pourquoi pas. Mais vous pouvez avoir le lit dans la chambre des parents également.
Oui.
Donc, mais en tout cas pour les bébés, en tout cas bien sûr, pour un nouveau-né.
Oui, pour les bébés quand ils sont
parce qu'il
tout
est
petits,
très désemparé,
oui,
bien sûr, bien sûr. Mais là, vous dites qu'il a 5 ans. Ouais.
5 ans quand même. Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Sophie.
Oui, il y a Jocelyn qui ajoute, oui, au Japon, on dort sur des futons par terre, et c'est vrai que toute la famille dort dans la même pièce, hein, dans les maisons traditionnelles. Donc, de fait, ça dépend aussi, bien sûr, des cultures. Mais là, en tout cas, même si ce n'est pas lié à cette histoire de sommeil, votre petit-fils, il est en train de traduire une souffrance. C'est ça qu'il exprime. À 5 ans, dans ses colères, et quand un enfant, on parle d'enfant difficile, un enfant, il n'est pas difficile comme ça. C'est pas, il n'y a pas des enfants difficiles, des enfants pas difficiles. Il y a des enfants qui vivent des choses. Et ça ne veut pas dire dans une fratrie, vous voyez, l'aîné, vous dites, il est plus calme. Mais comme chaque enfant a sa personnalité et son histoire, bah, il n'a pas la même histoire et pas la même personnalité. Et lui, en tout cas, il souffre de quelque chose. Je vous conseille, j'en ai parlé hier soir, j'en parle souvent dès qu'il s'agit d'enfants, mais c'est vrai que c'est très aidant de lire des ouvrages sur la formation du cerveau de l'enfant ou la psychologie de l'enfant. Et vous pouvez lire l'excellent ouvrage de Catherine Guéguen, G-U-E-G-U-E-N. Donc elle en écrit 3 ou 4 de mémoire. Et elle est pédopsychiatre, elle donne des conférences et elle a beaucoup écrit sur l'éducation positive auprès des enfants, justement comment les écouter, comment écouter leurs souffrances, comment les écouter quand ils ont quelque chose à dire. Et vous, ça peut beaucoup vous aider à comprendre. Ne serait-ce que comprendre les âges de développement aussi, c'est très aidant de se repérer dans le temps.
Bien, je vous remercie beaucoup parce que moi je me demandais aussi si, en tant que grand-mère, est-ce que j'avais quelque chose à faire là-dedans ou est-ce que je laissais passer en me disant bon, bah, c'est l'affaire des parents. Mais je pense quand même.
Vous avez un rôle plus qu'à faire, vous jouez un rôle. De fait, vous jouez un rôle en tant que grand-mère. Donc il y a une grand-mère à être. Voilà, ce que je vous disais, il n'y a pas à apporter une solution, mais il y a à avoir un comportement adéquat.
Oui, c'est ça. C'est le comportement surtout.
Oui.
Parce que c'est pas facile non plus d'être je sais pas, il y a peut-être des grand-mères très très patientes, mais c'est pas ma qualité principale, donc ça me...
Non, mais vous avez raison, surtout qu'on se sent d'abord très démuni et puis très agressé par un enfant colérique ou violent. On se sent malheureux parce qu'on se sent mal aimé, vous savez, hein, on régresse aussi et on a un sentiment de dire mais cet enfant m'aime pas, mais pourquoi ça se passe pas bien. Donc on a un sentiment de non-amour de la part de l'enfant. Et du coup, on lui en veut à cet enfant quand même, après tout ce qu'on fait pour lui. Donc tout ça est très humain. Mais c'est remettre les choses en perspective à leur place en comprenant que cet enfant a l'âge d'un enfant et que nous sommes des adultes. Parce que sinon, on rentre dans notre histoire avec lui et finalement vous lui donnez un pouvoir sur vous qu'il n'a pas et il ne sait pas quoi en faire et du coup ça le rend ça peut lui créer une anxiété terrible et le rendre donc presque violent ou colérique parce qu'il a peur, ça se traduit comme ça chez les petits. Quand ils sentent que comme
ça...
Il y a
des moments où je me dis mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il soit comme ça et donc,
Vous ne lui avez rien fait, mais il a besoin de vous dans quelque chose de... C'est ça qui est passionnant, c'est qu'avec des petits, il nous amène, il nous oblige à être très structurés, à être très ancrés en soi, à trouver le calme, à être d'humeur assez égale. Et là, on va leur donner de la sécurité. Tout en étant ouvert, affectif. Non, mais c'est un véritable enjeu. Et je reconnais avec vous, Marie-Odile, que c'est, évidemment, ce n'est pas facile. Mais l'enjeu est là et ça peut être pour soi aussi une forme d'apprentissage, un peu plus de sagesse, un peu plus de distance. Voilà. De ne pas le prendre au premier degré ou pour soi. Il ne cherche pas du tout à vous en vouloir, de quoi que ce soit d'ailleurs. De quoi que ce soit. Il est même plutôt toujours dans le camp des adultes parce que lui, il cherche à être aimé absolument. Donc, vous pensez bien que lui, il ne se rend pas compte que ce qu'il fait, c'est contre-performant par rapport à son besoin. Ça prouve à quel point, vous voyez, il est dans une forme de déséquilibre et d'anxiété.
Oui. Bien, ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.
Merci Marie-Odile. Et puis
je vais réécouter l'émission,
notre échange. D'accord.
Oui.
Et puis lisez les ouvrages de Catherine Guéguen, ça peut beaucoup vous aider.
Je l'ai noté.
Ouais, c'est l'art d'être grand-mère, pas facile non plus. C'est un métier aussi celui-là. Oui, être maman et être grand-mère.
Surtout qu'on n'a pas tellement de références parce que, bon, à mon âge, moi, ma grand-mère, je ne la connaissais pas tellement, quoi. Je la voyais très peu, puis on n'avait pas vraiment de relation avec nos grands-parents. Donc, je n'ai pas tellement de références.
Ah oui, ça dépend, c'est vrai, quand on en a ou pas dans son histoire.
Et peut-être que
ça change quelque chose quand on a une image de grand-mère auquel se référer, vous avez raison.
Du coup,
on peut se dire, j'ai envie d'être telle grand-mère, mais quand on n'a pas d'image... Et qu'on ne l'a pas vécu, ça doit être plus difficile de s'inventer, ou en tout cas de prendre ces habits-là.
Exactement, parce que du côté de maman, elle était loin, et puis mon père, du côté de mon père, c'était très froid, très, très distant. Et donc, mes grands-parents, je n'ai pas de référence de mes grands-parents. Donc, voilà.
Et vous avez toujours... Il y a un grand-père... Non, vous êtes seule, ce que je comprends ou ce que j'entends ou vous avez...
Ah non, non, j'ai mon mari.
Et lui, alors... Bah, c'est intéressant. Et lui, alors, avec ce petit, comment il s'en débrouille?
Bah, il s'en occupe pas vraiment. Le petit, ça l'intéresse pas trop, lui. C'est plus quand ils deviennent vers 10-12 ans, ça commence à l'intéresser. Et lui, il dit oui, oh, non, il serait plutôt dans dire oh là là, il est pas intéressant. Enfin, bon,
ah, mais comment il vit ces crises? Ah, c'est, il est pas intéressant, c'est ça?
Oui, en train de se dire plutôt bah, qu'est-ce que ça va devenir? Il va devenir un voyou, et puis ceci, et puis cela. Enfin,
oh là, oui, c'est.
Oui.
C'est un peu dur, très... ça, c'est jugeant.
Oui.
Ah,
oui.
Il n'est pas bien élevé, alors j'abandonne l'affaire, quoi. C'est un peu ça.
C'est-à-dire qu'il va, dans son bureau, puis. Bon, à table, on se retrouve tous à table, mais enfin bon.
C'est dommage parce que lui aussi, hein, il aurait un joli rôle à jouer. Hein. Lui aussi, hein, il pourrait prendre sa place de grand-père et lui apporterait beaucoup. Peut-être, alors je ne sais pas si lui aussi il a des souvenirs de grands-parents, mais pour ceux qui en ont eu, et j'imagine, voilà, il y a des auditeurs ce soir, et d'ailleurs, si vous avez envie de témoigner, vous pouvez appeler. C'est très important des grands-parents dans une vie. Il y en a pour qui ça a même été essentiel dans leur croissance.
Oui, c'est vrai.
C'est un rôle très important, oui. Donc, ou dans des souvenirs ou des écrivains, voilà, qui parlent de leur grand-mère. C'est souvent un personnage, hein, la grand-mère ou le grand-père, qui ont transmis des choses que les parents ne transmettaient pas. D'ailleurs, parce qu'ils avaient plus de temps, plus de présence, plus de patience, quelquefois une certaine force de caractère, parce que l'âge étant pas le même, il y a une maturité chez les grands-parents que ne vont pas avoir les parents sur le plan de l'adulte. Donc, ils vont transmettre des choses à l'enfant.
Oui, alors,
je dis que c'est aussi dommage pour votre mari, c'est dommage pour les deux de louper une relation qui va marquer l'enfant à vie, parce que le jour où vous serez plus là, ben, le jour où il deviendra un adulte, il pourra parler de son grand-père, de sa grand-mère qui aura compté dans sa vie. Hein. Donc, quelquefois, on a tous envie de laisser une trace dans l'histoire, ben, on l'en laisse dans l'histoire d'un être, c'est pas rien.
Il faudrait que j'en parle à mon mari, ça.
Ah oui.
Parce que lui, vis-à-vis des autres petits-enfants, c'est plus quand ils sont... Voilà, vers 10-12 ans, quand il commence à être.
Eh oui, mais le lien, il se crée maintenant.
Quoi.
Eh oui, mais s'il veut un lien quand l'enfant aura 10-12 ans, c'est maintenant qu'il doit le créer. C'est pas attendre que l'enfant ait 10-12 ans pour le créer. Parce que l'enfant, avec le lien avec l'enfant, il se crée petit. Dans la petite enfance. Et oui, et c'est pour soi aussi en tant qu'adulte, un langage, un apprentissage, une école. Et puis peut-être, voilà, ça veut dire aussi retrouver son âme d'enfant quelque part.
Oui.
C'est important pour chacun d'entre nous. On l'a tellement vite perdu, cette âme-là.
Oh oui.
Ouais. Vous savez, c'est ce que dit Nietzsche hein, dans Ainsi parlait Zarathoustra, où il dit voilà, il y a une épreuve pour l'esprit, et il parle de voilà, au début de la vie, on est un chameau, on aime bien porter les choses lourdes, et puis on part dans le désert, et puis dans le désert, on rencontre un dragon qui vous dit je dois, alors on adore, et puis pour trouver sa liberté, il va falloir devenir un lion. Enfin, je vous la fais un peu courte là. Et puis il dit, le lion va pouvoir se sauver du chameau et du dragon, mais pour trouver sa véritable innocence et sa créativité, il aura besoin de muter dans l'enfant. Parce que là, à ce moment-là, dans cette mutation-là, il va retrouver sa créativité, son imagination et toute sa puissance.
Et, oui.
Et voilà. Donc il y a un enjeu. Bon, je vous mets l'enjeu un peu, mais c'est pour motiver. Voilà, je cherche à motiver votre époux, Marie-Odile. Alors, je ne sais pas si c'est un grand lecteur, mais vous lui mettez Nietzsche dans les mains, et puis si, au cas où ce serait un grand lecteur.
Il lit pas ce genre de choses-là. Il lit des revues techniques ou de.
Du train électrique à 5 ans. Hein, en train électrique, on n'a encore jamais rien fait de mieux que le train électrique pour un petit garçon de 5
vrai,
ans.
Oui.
Bon.
Et là aussi, quand on joue avec lui, s'il perd, il envoie tout balader, cet enfant. Donc, c'est difficile, hein, c'est pas...
Oui, j'entends bien qu'il y a, une forme d'apprentissage ou de lien à trouver, mais s'il a envie de l'avoir plus tard, en plus c'est deux garçons, et avec celui de 8 ans, ça va comment avec votre époux?
Ça va bien. Enfin, c'est. Il lui a fait réciter ses tables de multiplication.
Oui, super. Oui, donc là, ça crée un certain lien parce que l'enfant a l'impression qu'on s'intéresse aussi à lui et à ses apprentissages.
Ouais. Oui.
Peut-être aussi que le petit de 5 ans est peut-être assez éveillé et trouve qu'il n'a pas beaucoup de place par rapport à celui de 8. Peut-être que celui de 8 ans a l'impression que les adultes ont l'air plus intéressés. Je sais pas.
Ah, il voudrait grandir. Ça, c'est certain qu'il voudrait grandir. Et
c'est intéressant.
Il est toujours en train de copier son frère, quoi. Ça, c'est sûr.
Oui, donc ça, ce qui est plutôt un moteur pour lui d'avoir envie de grandir. Mais alors, il faut lui faire entrevoir que s'il a envie de grandir, ben voilà, il a des étapes à passer. Alors, je vous lis un message qui dit « Je suis une grand-mère comblée, je crois aussi parce que je suis en symbiose avec les parents qui me font toute confiance. J'ai 5 petites filles qui sont élevées comme j'ai élevé leurs parents et c'est certainement plus facile. »
Ah oui.
Il y a Feuille d'érable qui dit « Philippe Torreton a écrit un très émouvant livre qui s'appelle Mémé. » Ah bah merci à Feuille d'érable. Peut-être ça pourrait vous aider, vous.
Je suis en train de le noter,
voilà,
là.
Voilà, Mémé de Philippe Torreton. Ouais.
Oui. Je l'ai noté, là.
Et puis il y a Tatiana qui dit « J'ai été élevée essentiellement par mes deux grands-mères, dit-elle, et elle dit qui ont été essentielles à ma vie, au savoir que j'ai aujourd'hui, aux valeurs et principes qu'elles m'ont transmis et que je transmets à mon tour à mes enfants. »
Ah oui.
Donc c'est important ça aussi pour vous,
oui,
ça va vous aider,
oui,
ça va
oui,
vraiment
oui,
vous
oui,
aider.
Oui.
Bon, je vous souhaite une jolie vie, Marie-Odile, de grand-mère et de grand-père avec vos petits-enfants. Et merci pour cet échange.
Merci beaucoup, Sophie.
Merci. Belle nuit à vous. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Il est minuit et on retrouve tout de suite Isabelle Millet pour les informations. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Et cette prise d'otage cet après-midi dans un bar tabac de Blagnac près de Toulouse. Benjamin Péter, on vous retrouve en direct sur place pour Europe 1. Benjamin, on sait que les 4 femmes qui étaient retenues ont été libérées et on apprend à l'instant que l'individu qui les détenait vient d'être interpellé.
Oui, tout à fait. Il a été interpellé il y a quelques minutes à peine, 100 heures après 8 heures de négociations avec le RAID. Tout a commencé vers 16 heures où cet homme âgé de 17 ans a pénétré dans ce tabac presse situé à l'entrée de Blagnac. Il a ligoté 4 personnes, 4 femmes, la propriétaire ainsi que plusieurs employés de l'établissement. Armé, l'homme a tiré plusieurs fois en l'air avant de se retrancher et d'exiger de parler au négociateur du RAID. Après de longues négociations, donc, lui qui se présentait comme le bras armé des Gilets jaunes à Toulouse, a relâché une puis les 3 dernières otages. Dans une lettre laissée à son domicile qu'ont retrouvé les enquêteurs, il parlait justement des Gilets jaunes, mais aussi de sa dépression dont il souffrirait. Il explique qu'il aurait voulu faire une action spectaculaire. Il était donc finalement retranché tout seul dans cet établissement depuis 3 heures maintenant. Il a été donc interpellé et le procureur de la République doit prendre la parole dans les minutes qui viennent.
Merci beaucoup Benjamin Péter pour cette information de dernière minute. Donc l'interpellation du preneur d'otages. Vous étiez en direct de Blagnac pour Europe 1. Une fusillade ce soir aux États-Unis dans une école de la banlieue de Denver dans le Colorado. Il y a au moins 7 blessés dont plusieurs élèves. 2 suspects arrêtés, un troisième est peut-être encore en liberté, activement recherché. Le Colorado qui a été durablement marqué par une autre fusillade en milieu scolaire, la tuerie au lycée Columbine bien sûr, également dans la banlieue de Denver. Emmanuel Macron s'est invité ce soir dans un restaurant parisien où étaient réunis les candidats à La République En Marche et les principaux cadres de la campagne. L'occasion de motiver ses troupes à la peine dans les sondages à moins de 20 jours maintenant d'un scrutin décisif pour la suite de son quinquennat. Les européennes, il en était question justement ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Vous l'avez sans doute entendu, Mathieu Béliard et Laurence Ferrari ont reçu 6 responsables politiques pour un débat sur le thème « Quelle France, dans quelle Europe ?» Débat dont vous pouvez retrouver les temps forts d'ores et déjà sur Europe1.fr. Au Royaume-Uni, les élections européennes se tiendront le 23 mai. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre aujourd'hui. Le gouvernement britannique estime qu'il n'y a plus assez de temps pour mettre en œuvre un hypothétique accord de Brexit d'ici cette date butoir des élections. C'est la première fois qu'il prenait la parole devant un tribunal. L'ancien patron de France Télécom, Didier Lombard, s'est exprimé aujourd'hui au deuxième jour du procès. Il a dit son chagrin profond pour toutes celles et ceux qui n'ont pas supporté le changement imposé au sein de l'entreprise. Entre 2008 et 2009, 35 salariés de France Télécom se sont donné la mort. Didier Lombard a également déclaré qu'il n'y pouvait rien. Si je n'avais pas été là, ça aurait été pareil, peut-être même pire, a-t-il dit. Des déclarations qui ont suscité la colère des proches des victimes. En foot, l'incroyable comeback. L'exploit ce soir de Liverpool qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Les Anglais se sont imposés à domicile en battant le FC Barcelone 4-0. Et pourtant, Liverpool était privé de deux de ses attaquants vedettes, Mohamed Salah et Roberto Firmino, tous les deux forfaits. Incroyable remontée donc, sachant que le Barça s'était imposé chez lui 3-0 au match aller. Liverpool jouera donc la finale et connaîtra son adversaire dès demain. Ce sera l'Ajax Amsterdam ou bien Tottenham. Et puis en tennis, le retour gagnant de Roger Federer sur terre battue après 3 ans d'absence au tournoi de Madrid. Le Suisse s'est très facilement imposé face au Français Richard Gasquet, 6-2, 6-3 en à peine 52 minutes. On va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Et vous nous promettez, Elena, un 8 mai bien perturbé.
Rien à voir avec le 8 mai 1945 où il faisait 28 degrés sous le soleil parisien alors qu'on relevait 1 cm de neige une semaine plus tôt. Alors la version 2019 sera copieusement arrosée en matinée au nord de la Seine ainsi qu'entre le golfe du Lion et les Cévennes, des pluies plus éparses sur les autres régions. L'après-midi, les pluies soutenues se décaleront vers le nord-est et toujours au sud de l'Auvergne. Quelques flocons sur les plus hautes cimes savoyardes et celles des Pyrénées. Sur le nord-ouest, on aura un ciel de traîne après le passage des pluies. Alors une traîne avec des averses localement orageuses et beaucoup de vent. Vent qui se renforcera en soirée. Attention, ça va quand même souffler très fort, notamment sur le littoral, entre le sud de la Bretagne et la Vendée, des rafales à 120 km/h. Dans les terres, on ira jusqu'à 80-90 km/h sur l'ensemble des régions du Nord-Ouest, Île-de-France comprise. Alors ce temps instable se maintiendra jeudi, puis une autre onde pluvieuse, moins violente, balayera le pays d'ouest en est vendredi et samedi. Retour d'un temps calme, ensoleillé et chaud à partir de dimanche. Et ça devrait durer. En attendant, on n'aura pas chaud demain, pas froid non plus, hein, puisqu'on ne devrait plus avoir de gelée. Et l'après-midi, attendez-vous à 12 degrés à Langres, 15 à Brest, Auxerre et Strasbourg, 16 à Lille, Nantes, Bourges, Lyon et Bordeaux, 17 à Caen, Paris et Nîmes, 19 à Toulouse et Marseille, jusqu'à 23 degrés pour Ajaccio.
La météo signée, Elena Morna, et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters, toujours bien sûr, pour la Libre Antenne.
Europe 1. 22h30, 1h, la Libre Antenne, Sophie Peters.
Écoutez Europe 1 et c'est la Libre Antenne qui se poursuit en direct avec vous. Une Libre Antenne dans laquelle vous venez vous confier, on vous écoute, on vous répond, on vous réconforte. Vous pouvez nous appeler au 3921. Florian et Hassan sont ce soir à votre écoute et c'est Fifi qui règle et qui veille au bon déroulement de cette émission. Vous pouvez réagir par SMS 739-21 précédé du mot nuit, écrit en majuscule par mail libreantenne.tout@europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters. 3921, nous sommes à votre écoute. Et avant d'accueillir Caroline, Marie-Odile, un message de Cathy qui dit « Ce petit bout est en souffrance, beaucoup de dialogue et de patience sont nécessaires. Moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère maternelle qui a été pour moi d'un grand, grand refuge. Grand-mère, à présent, j'essaie de faire comme elle, dit Cathy. » Bonsoir Caroline. Caroline ?
Allô ?
Oui, bonsoir Caroline, vous êtes à l'antenne.
Oui, vous m'entendez bien ?
Oui, très bien.
Ah bon, bah moi aussi.
C'est le principal.
Voilà, c'est l'essentiel. Bah, écoutez, j'ai un petit peu honte quand même parce que j'écoute tout le temps. Oui. J'entends des messages tellement dramatiques que le mien me semble banal. Et pourtant, il m'a détruit. Et je suis tombée dans l'alcool. Je suis soignée depuis 5 ans dans une clinique qu'on appelle une maison de repos.
Oui.
J'en sors à chaque fois à peu près reconstruite. Et là, dernièrement, j'avais été... en sortant, j'avais été 5 mois totalement abstinente.
Mmh.
Le problème, c'est que... Bon, bah, l'histoire, en gros, c'est passé il y a 13 ans où j'ai été mariée quand même 45 ans avec mon ex-mari et qui a fait sa crise d'adolescence à 56 ans. Mais d'une façon absolument odieuse, humiliante. Je l'ai vécu, ça c'est le psychiatre qui me l'a dit, que je vois toujours. Ça a été pour moi un traumatisme.
Mmh.
Énorme. Qui fait que, alors que je faisais beaucoup de choses avant, j'étais comédienne amateur, bien sûr, je donnais des cours de comédie à des enfants, j'avais énormément de travail, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Et ça, quand ça m'est tombé dessus, j'ai fait des crises d'angoisse qui ont viré aux attaques de panique, et j'ai dû démissionner de ma troupe. Parce que je n'arrivais plus à me laver, à m'habiller. Et c'est encore comme ça maintenant, au bout de 13 ans.
Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé avec l'alcool ?
Pas vraiment tout de suite. Disons qu'il y a eu la première fois la provocation, où je revois encore la scène où j'ai pris une bouteille de whisky, que j'ai pris au goulot, mais pour le provoquer, en fait, pour qu'il réagisse.
Oui.
Bon, il n'a pas réagi du tout, il n'a rien à faire. Hein. Donc, surtout comme je déteste le whisky, j'ai abandonné. Mmh. Et alors que, à mon avis, il aurait dû m'arracher la bouteille, l'acheter, la vider, et dire, viens, on va parler. Parce que moi, je veux bien admettre, je pense que je suis suffisamment tolérante pour qu'au bout de 45 ans, on a envie de changer, bon, on est tombé amoureux d'une autre, bon, bah, allons-y, expliquons-nous. Ah non, on ne discute pas avec... ça s'appelle Jean-Marie. On ne discute pas avec Jean-Marie. Il est prof, et il était prof de maths, il a toujours raison, il sait toujours tout mieux, et j'ai toujours été une femme soumise, quoi. J'obéis.
Mm.
Et là, il en est à sa troisième maîtresse, là. Il a un petit panel, là, comme ça, il change.
Mm.
Et moi, je voulais qu'on arrive à... J'ai réussi avec les deux premières. La dernière, elle veut rien savoir. Moi, je voulais qu'on se voit tous ensemble. Bon, bah, il a changé, mais qu'on pouvait se voir. Là, actuellement, la dernière compagne qui s'est trouvée, tous ensemble, avec ses enfants, elle, ses petits-enfants, les miens, j'en ai 6, j'ai 3 enfants. Non, je ne veux pas.
Est-ce que, Caroline, est-ce que vous vous détruisez parce que vous estimez qu'il vous détruit et du coup vous êtes en miroir dans cette relation de destruction ?
Ah oui, je me détruis.
Oui, c'est
tout
ça.
Tout le temps.
Ouais.
Tout le temps parce que je le provoque en me détruisant, mais il s'en fiche.
Bien sûr, mais parce que vous espérez qu'en vous détruisant, ça va créer un sursaut chez lui. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire pour vous ? Espérer que l'autre le fasse pour vous, mais en fait, il n'a jamais été là pour vous. Et vous abandonnez.
Ben, il a été là pour moi, mais j'ai écouté dernièrement, toujours sur Europe 1, une émission où on parlait des pervers narcissiques. Et j'écoutais, je me dis, non, il n'est pas comme ça, c'est pas vrai, on ne veut pas admettre ça, c'est pas possible, c'est pas lui. Ben, si, il est comme ça. C'est-à-dire que j'ai compris au travers de l'émission qu'en fait, il existait à travers moi. Parce qu'il disait toujours, je suis Barry de Caroline. Parce que je faisais du théâtre, bon, j'étais connue, tout ça, j'étais amateur, hein, tout ça, plein de petites villes. Hein. Je sais pas si je l'Olympia non plus, hein. C'est pas théâtre ou l'Olympia. Mais
ça veut dire que vous lui donnez beaucoup de pouvoir, en fait. Vous continuez à lui donner beaucoup de pouvoir, puisqu'il a ce pouvoir
mais
de vous détruire.
Mais je m'accroche à lui. Mmh. En fait, j'ai perdu ma maman, j'avais 20 ans.
Oui.
Et j'étais fille unique.
Oui.
Un père totalement indifférent.
Tiens, comme le mari.
Oui, mais le mari, il a pris. J'assure, dans nos disputes, il disait de toute façon, je t'ai épousée parce que tu étais en détresse. Comme déclaration d'amour, on fait mieux. Et c'est, en fait, c'est vrai. Donc, il s'est toujours occupé de moi. Mais il n'y avait pas, disons qu'on a vécu, bon, on a quand même fait 3 enfants. Et on a fini par vivre comme frère et sœur, en fait. Moi, ça m'allait.
Oui, mais lui, ça ne lui allait plus. Ouais.
Bah, disons qu'il me dit qu'il ne m'a jamais trompée avant cette histoire d'il y a 13 ans, il y a quand même 13 ans. Et je décolle. Là, j'attends pour rentrer à nouveau dans cette clinique. Mmh. Parce que. Bah, il faut plus. De toute façon. Tout le personnel médical que j'ai pu rencontrer depuis 13 ans, oui. J'en ai vu des pieds, et
oui.
Psychologues, psychiatres et tout, ils m'ont tous dit, dans un premier temps, ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est lui.
Et ça change quoi, ça, pour vous?
Bah, je ne crois pas. Pour moi, c'est moi qui suis malade, parce qu'en fait, j'ai fait une dépression, j'ai perdu 8 kilos, j'ai dû abandonner la pièce de théâtre parce que personne...
Oui, c'est pour ça que je demande qu'est-ce que ça change pour vous de savoir ça. Quand bien même, est-ce que ça, c'est aidant pour vous? Ce qui serait aidant, c'est de comprendre pourquoi vous lui donnez toujours autant de pouvoir sur vous, alors que vous-même, vous l'avez abandonné sur vous-même.
Je ne sais pas.
Ah oui, elle est là, la question.
J'ai encore eu un de mes fils. J'ai eu de la chance. J'ai 3 enfants, une fille... et 2 garçons, donc 41, 40, 39 et 38, 6 petits-enfants, mais qui sont très bien. En fait, ce qui me vaut la sympathie, j'ai envie de dire des psychiatres, du personnel soignant, de mes enfants, c'est que je suis cash. Un jour, j'ai été le voir, je dis voilà, je dois faire quelque chose. J'ai pas tourné autour du pot, je vais essayer de trouver d'excuses. Voilà. Attention, je tombe pas par terre non plus. Mais quand même, une fois que j'ai vu 3-4 verres, je peux plus prendre la voiture, ce qui fait que je m'enferme. Je me punis en permanence.
Oui, oui, mais ça vous... Il y a un bénéfice à ça. Le bénéfice, c'est de montrer à quel point vous êtes victime de lui. Et c'est à ça que vous sert l'alcool. Oui. Donc c'est le moyen que vous avez trouvé. Idéalement, ce serait d'en trouver un qui ne vous détruise pas, si c'est ça qui compte pour vous, mais d'une autre façon.
Mais de toute façon, il ne faut plus. Là, je lui ai laissé un message dernièrement, très. Comme j'écoute toujours Pierre Balmar après vous,
ouais.
Avec sa façon de parler, carré, tac, 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 je ne veux plus te voir, tu ne viens plus. Parce qu'à chaque fois qu'il vient, parce que j'ai expliqué donc à Hassan que j'avais une auxiliaire de vie qui n'a aucune formation.
Ouais.
Elle est tombée comme ça dans ma vie et elle est extraordinaire. Elle est formidable. Si je suis sortie un petit peu de l'enfer, c'est grâce à elle. Parce que il y a 1 an et demi, j'ai arrêté de vivre. Je restais couchée tout le temps. Je buvais. Au point que je suis arrivée à la clinique en déambulateur et même une fois en fauteuil roulant. Je ne savais plus marcher. Donc là, elle a l'âge de ma fille, en fait. Et c'est tombé comme ça, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais elle est formidable parce qu'elle arrive, elle est arrivée à me sortir. Je marche maintenant chez mes couches. Je ne savais même plus traverser une rue. Parce que si j'avais une crise d'angoisse, une attaque de panique, je pouvais tomber comme ça, paf. Le nombre de fois, je me suis retrouvée aux urgences. Parce que les gens... Mais pas parce que j'étais ivre, hein, parce que je ne sors pas, quoi, je vois. Si j'ai bu, je ne sors pas. Je ne veux pas qu'on me voit. Parce que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi du tout. Donc...
Et vos enfants, le fait de... Est-ce que vous battre pour vos enfants, ça pourrait vous aider ou pas? Est-ce que ça, c'est une motivation qui pourrait vous aider à vous sortir de l'alcool?
Je sais que je les rends malheureux. Mm-hmm. Ils sont merveilleux de compréhension. Mais ma grande frustration, qu'avec mes attaques de panique, j'ai pu en garder un, celui qui a 15 ans, le tout premier. Mais les autres, non. Je ne peux pas. Je ne sais pas. À tout moment, je peux faire une crise d'angoisse, attaque de
panique. Donc, ils sont où? Mais ils sont adultes, vos enfants?
Ça va de 5 ans et 15 ans.
De 5 ans, vous avez dit?
De 5 ans. Gabriel, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, ni oublié en route.
Vous avez 5 enfants ?
J'ai 3 enfants. Mais ma fille a trois enfants. J'ai un demi-fils qui en a 2 et un autre fils qui en a 1.
D'accord, mais voilà. Là, parce que vous m'en avez cité. D'accord, donc ce sont des enfants adultes et vous avez des petits-enfants, donc. Là, vous me parlez d'enfants adultes.
Je peux jamais les garder. Alors, par contre, lui, il peut les prendre en vacances, pas moi. Je m'en sens pas capable.
Bien sûr, ils sont trop petits.
Donc,
là.
C'est une grande frustration qui fait que ça continue. C'est plus vraiment de la dépression, c'est de la mélancolie, c'est mince.
Et qu'est-ce qui fait, Caroline, que vous qui avez l'air aussi lucide sur ce qui vous arrive et sur ce que vous mettez en œuvre, comment ça se fait que vous n'arriviez pas ou vous ne vouliez toujours pas vous sortir de cette impasse-là? Comment vous vous expliquez ça?
Je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Mais bon, j'ai cet auxiliaire de vie.
Parce que cette lucidité, vous n'en faites rien. Oui, vous nous la racontez, mais vous nous la racontez comme s'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas vous. C'est-à-dire
exactement,
que vous-même,
je vais vous dire, voilà, c'est quelqu'un d'autre.
Oui, vous nous racontez votre histoire comme si vous racontiez l'histoire d'une femme victime de quelque chose, avec sans doute beaucoup d'empathie pour elle et beaucoup de tristesse pour elle. Et ça vous rend très triste de la voir se détruire, mais quelque part, c'est pas vous.
Eh ben exactement. De toute façon, j'ai vu un alcoologue. Quand je vais à la clinique, je vois un alcoologue. Je pense qu'il reprend. J'ai un de mes fils, le plus jeune, qui m'a téléphoné ce matin. Il m'a dit, maman, il faut que tu demandes à la clinique où tu vas rentrer bientôt. Là, je suis en priorité. Donc, dès qu'il y a une place, il m'appelle.
D'accord.
Et pour pratiquer le MDR. Mmh. Pour justement chasser ça. Il m'a expliqué un petit peu le principe. J'espère que ça va marcher.
Mais c'est surtout pour vous réintégrer, pour refaire un avec vous, et puis être dans cette division, pour vous retrouver, pour retrouver ces parties de vous. C'est surtout ça qui compte, là. C'est pas de chasser.
Bah oui, parce que là, c'est pas moi du tout, hein. C'est pas moi du tout. Je suis pas ça, moi. Je suis pas qui comme ça, non.
Non, mais vous êtes agi par quelque chose sur lequel vous pensez que vous n'avez pas de prise, de la même façon que vous avez subi sans doute la situation de votre couple, puis peut-être autre chose très jeune, hein, sans doute peut-être ce deuil très jeune de votre maman. En tout cas, des événements dans votre vie, vous êtes senti victime de ces événements. Et vous n'avez sans doute pas entrevu le fait que, oui, bien sûr, on a tous des événements qu'on n'a pas choisis, mais ce qui compte, c'est la façon dont on y répond. Et vous n'imaginez pas pouvoir y répondre, pour l'instant en tout cas.
Ce qui m'agace, c'est que lui, il a d'un seul coup bouleverser toute sa vie à son goût, à son idée. Et moi, alors, je fais quoi? Je subis encore une fois? Donc, non, ça n'a plus ça. Hein. Donc, pourtant, j'en ai supporté des choses. J'ai été tolérante, j'ai été compréhensive, j'ai tout fait. Mais c'est un mur. On ne discute pas avec lui.
Oui, surtout, vous, votre souci, c'est que vous avez lié votre destin à quelqu'un qui ne veut pas de vous, plus de vous, et ne plus rien entendre de vous. Donc, vous êtes piégé, sans vous donner à vous la possibilité d'avoir votre vie à vous, votre propre vie. Vous attendez, c'est ça, d'une journée à l'autre, une entrée en clinique, hein, c'est ce que j'ai compris, Caroline.
Oui, ben, ça ne sera pas demain, mais ça peut être... Jeudi, ils vont m'appeler, ils vont dire, voilà, Caroline, enfin, j'ai repris mon nom originel, parce que ça aussi, ils me l'ont souvent rapproché. Parce que quand j'étais citée dans le journal avec mes camarades, hein, quand on avait joué, on jouait partout, en campagne, en ville, Calais, à Dunkerque, à Lille, partout. Et mon nom, c'est Lagati, le nom de mariée. Et ils me disaient toujours, et pourquoi ils mettent Caroline Lagati? Je dis parce que c'est mon nom. Mais il dit non, c'est pas ton nom. Il dit ton nom, c'est... Attention, il est compliqué. Hein. Je prends mon élan. Broidiwa.
Non, mais vous ne donnez pas toutes vos coordonnées à l'antenne comme
pas.
Ça.
Caroline. Ça me blessait.
Oui.
Oui.
Moi, vraiment, je vous souhaite là, d'avoir effectivement cette place assez rapidement, mais surtout de garder quelque chose de notre entretien, c'est-à-dire de la possibilité, le choix que vous avez encore de reprendre pied dans votre vie avec vous et de refaire une alliance avec cette femme que vous êtes en train de délaisser et que vous regardez comme une pauvre victime qui est en train de détruire sa vie. Donc, si vous pouviez lui porter secours...
Mais qu'est-ce que je fais pour l'alcool ? Moi, j'ai peur.
Eh bien, vous... Peur de quoi ? D'arriver à vivre sans ?
Bah,
ou de continuer
là,
à vivre avec.
Je vais rentrer en clinique, je vais ressortir, je vais me retrouver seule dans l'appartement. Et si la moindre contrariété, je vais aller chercher avec toute la honte qui m'habite, l'angoisse, la peur.
Mais dans le séjour en clinique, Caroline, vous allez vous faire aider pour prendre une décision. Et une décision irrévocable. Il n'y a que comme ça qu'on en sort de
l'alcool.
Oui, mais il n'y a que comme ça qu'on en sort de l'alcool. Oui, mais un peu plus loin que ça, c'est de refaire un peu le trajet qu'on vient de faire toutes les deux pour que vous puissiez prendre conscience à quel point vous avez mis en œuvre votre propre destruction. Hein, comme dit...
Mais ce que je ne comprends pas, excusez-moi, c'est quand je suis en famille, je n'ai pas du tout envie d'alcool. Ils peuvent voir tout ce qu'ils veulent, les enfants, moi.
Oui, sans doute que vous êtes trop seule. Oui, sans doute que vous êtes trop seule.
Et quand je suis en clinique, c'est pareil. Je n'ai pas du tout envie sur l'alcool. Je vis bien. On ne pourrait jamais s'imaginer que je ne vais pas bien. Je discute avec tout le monde, avec le staff infirmier. Lorsque je téléphone parfois la nuit, parce qu'on peut téléphoner la nuit, il y a des infirmières qui sont à votre écoute. Et... je passe pour quelqu'un de très sympathique, de très drôle. On se demande ce que je fous là, quoi. Mais bon, quand je reviens chez moi, c'est la solitude. Heureusement qu'entre deux, il y a Sandy. Et Sandy vient pas demain, vient pas jeudi. Mais Sandy m'a donné, si je peux me permettre d'elle, parce qu'elle vaut le coup. Avec Sandy, c'est quand elle arrive vers 14h. Elle me dit, je veux que tu sois lavée, habillée, coiffée, maquillée et ton lit. Je ne veux pas te voir dans le lit. Si ce n'est pas fait, je m'en vais. Et du coup, je le fais.
Oui. Donc, ce que fait Sandy pour vous, Caroline, ce dont vous parlez, c'est de le mettre en œuvre maintenant pour vous-même. Parce que là, c'est toujours quelqu'un d'autre qui agit pour vous à votre place. Et vous n'écoutez que quelqu'un qui est là. Dans une position d'ailleurs très infantile. Et sans doute qui rappelle la jeune fille qui a peut-être perdu sa maman très jeune. Mais... en tout cas, là, dans votre séjour en clinique, je vous donne quelques pistes voilà, de travail pour vous sur le plan psychologique, pour arriver, parce que vous serez sobre à ce moment-là et aidé dans une désintoxication, à vraiment prendre votre vie à bras-le-corps avec des véritables décisions. Et pas déjà, parce que là, vous êtes déjà en train de me dire « Ah oui, mais quand je vais sortir de clinique, vous comprenez,
oui,
je vais me retrouver tout seul, je vais boire. Bah, » j'ai envie de vous dire « Bah oui, alors,
oui, c'est mon défaut,
si c'est comme ça... » Non mais, Caroline, si c'est comme ça, n'y allez pas. Enfin, parce que vous êtes déjà en train de mettre en échec votre propre séjour. Donc ça ne vous laisse pas beaucoup de chance de réussir quoi que ce soit. Vous partez battu d'avance, en d'autres termes.
Mais c'est même pas donc, la jeune fille.
Donc je vous demande.
C'est la petite fille.
Oui, mais Caroline.
À l'intérieur, c'est une petite fille.
D'accord. Je vous demande là, voilà, si vous allez en clinique, de prendre une vraie décision entre vous et vous, de vous engager avec vous-même et pas vis-à-vis des autres. C'est ça qui va vous sauver. C'est vous-même qui allez vous sauver. C'est personne d'autre. Et dans l'alcool, on sait très bien que c'est ça qui est en œuvre. Donc ceux qui s'en sortent.
L'alcool,
d'accord.
Surtout pour calmer les crises d'angoisse.
Oui, mais l'excès d'angoisse, vous le calmerez autrement une fois que vous aurez résolu ça. Vous savez bien que ça ne calme rien, parce que ça vous rend encore plus angoissé.
On sait bien que c'est un mauvais ennemi, j'en suis consciente. Hein.
D'accord. Bon, Caroline, je vous laisse faire quelque chose, j'espère, de notre échange ce soir, vraiment, parce que je compte sur vous pour ça, et éventuellement de le réécouter.
Quand je sortirai de la clinique, je rappellerai pour vous dire comment ça va.
Oui, bah vous me rappellerez si vous avez pris une décision, hein. Mais sinon, non. Parce que si c'est pour prendre la décision que vous venez de prendre, non. Bah oui.
C'est quoi la décision que je viens de prendre ? C'est-à-dire que je vais replonger quand je vais
C'est ce que vous m'avez dit. Donc si c'est pour m'annoncer ça, j'ai pas envie de vous entendre.
Je vis dans la peur, je connais que
c'est
ce
pour
mot-là.
Ça
j'ai
que
peur,
je vous.
J'ai peur.
Voilà, c'est pour ça. Oui, mais vous savez ce que Barbara mettait sur ses mâles de scène. J'ai peur, mais j'avance, mais j'ai peur. Alors écrivez ça en tout grand dans votre chambre. D'accord ? J'ai peur, mais j'avance, mais j'ai peur. Voilà. Souvenez-vous de Barbara, voilà, qui elle-même aussi avait très peur. Et on est nombreux
Merci,
à avoir
Sophie.
Très peur. Je vous embrasse, Caroline. Et bon séjour.
Merci.
Et prenez soin
Merci
de vous.
Merci, Sophie.
Oui,
Merci
bonsoir.
Beaucoup.
Bonsoir.
Au revoir.
Pour joindre Sophie Peters, appelez le 3921.
50 centimes la minute.
En Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Bonsoir Eva. Eva? Oui, ça y est, Eva, vous êtes là ou là?
Oui, je suis désolée, je remonte parce que je suis en train de travailler, mais je me pose.
D'accord, voilà. Vous êtes bon. Au travail, d'accord, vous êtes...
C'est bon. Voilà, bien. Je vais m'arrêter.
D'accord.
C'est bon, oui. Donc, je vous téléphonais parce qu'en fait, j'ai une maman qui est dénuée d'affect vis-à-vis de moi. Alors, quand j'étais petite, je m'accrochais toujours à elle, voilà, comme ça. Et puis après, j'ai été maman, et là, je me suis rendu compte que y avait quand même un souci par rapport à ses actions, à ses réactions, à ce qu'elle était. Et puis, en tant qu'adulte, j'ai toujours couru après elle sans rien obtenir, mais par contre en souffrant beaucoup, quoi. Et ça joue dans toute ma vie, dans toutes mes relations, dans mon attitude vis-à-vis des autres. J'ai des problèmes donc relationnels un petit peu, dans le sens où ça joue... vous m'entendez ?
Oui, bien sûr.
Ouais. Ça joue dans ce que j'attends des autres,
ouais,
en fait.
Oui, bien sûr.
C'est un truc de dingue. Même au travail, j'attends de la reconnaissance, alors qu'en fait, c'est un monde de travail. On est juste là pour bosser et voilà, quoi. Mais moi, quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire vraiment
c'est
dans
humain,
le détail.
Hein. C'est humain, la reconnaissance, un besoin qu'on a tous, hein. Et ouais. Effectivement, le travail est un lieu où on en a besoin. Bon, on en manque beaucoup aujourd'hui hein, dans le monde du travail, de la reconnaissance. Mais ça, ce n'est pas forcément vous qui avez un problème parce que vous avez un besoin de reconnaissance. Ouais. On a tous ce besoin-là. Maintenant, j'entends ce que vous dites parce que vous dites que, en fait, vous attendez beaucoup des autres de façon générale parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comblé ou pas apaisé chez
clair,
vous, enfant.
Ouais. Longtemps, j'ai dit que j'étais une handicapée affective. Pour moi, c'était ça dans le sens où, je suis toujours, j'ai besoin de me rassurer et je suis toujours dans le besoin d'avoir de l'affectif en face. Alors, je le prends dans tout ce qui m'entoure, évidemment, pour pouvoir avancer. C'est comme ça que j'avance, mais c'est handicapant et je souffre avec ma mère parce que elle, ça viendra jamais. Et moi, je voudrais sortir de ça parce qu'elle, je la changerai pas. Je le sais. Mmh. Et moi, faut que j'arrive à passer ça. Quand je souffre de trop, en fait, je m'éloigne d'elle à chaque fois. Je m'éloigne d'elle. J'attends un moment. J'attends une semaine, deux semaines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Des fois, ça a été des années. Ça a été jusqu'à 2 ans. Et puis, après, je reviens. Et voilà. Mais il ne s'est rien passé entre deux parce qu'entre deux, elle ne s'est pas aperçue que je n'étais pas là. Quoi. C'était, voilà.
Ah oui, elle ne s'est pas aperçue. Elle dit pas, tiens, on se parle. Elle fait...
Non.
Il se passe rien si vous la contactez plus. Ouais.
Non, elle m'appelle pas. Elle a 73 ans, mais elle a toujours fait ça, quoi. Voilà.
Et vous êtes fille unique, Eva, ou y a...
Pour elle, oui. Ouais.
Pourquoi ça pour elle?
Parce qu'en fait, elle a une histoire assez compliquée. Ouais. Et je pense que...
C'est quoi son histoire? Oui.
Elle a été beaucoup abusée donc par son père et je pense que ma grand-mère a ses mains basses sur moi dès que j'étais petite et en fait ça a toujours été confus, c'est-à-dire que toutes les deux déjà mon grand-père me portait haut dans son cœur. Et en fait, ma grand-mère, elle confondait toujours. Elle me disait, en parlant de mon grand-père, elle me disait ton père. Et ma mère, elle m'appelait toujours comme sa sœur. Voilà. Voilà. Oui. Et même encore maintenant, au lieu de dire mon prénom, que je suis sa fille, elle m'appelle comme sa sœur. Elle m'appelle avec le prénom d'une de ses sœurs.
Et pourquoi vous dites que vous n'êtes pas sa seule fille? Enfin, il y a eu d'autres enfants ou vous êtes son seul?
Ah non, non, c'est dans le sens où c'est très confus entre ma grand-mère et elle. Quoi.
C'est ça,
voilà,
d'accord,
c'est
mais
ça.
Vous êtes biologiquement d'accord.
Mais oui, c'est surtout... biologiquement, oui.
Et votre grand-père s'est bien comporté avec vous? Parce que vous dites que votre mère est abusée. Non.
Non, bah, du tout. Ouais. Mais derrière, je lui ai demandé des comptes. J'en ai même parlé à ma grand-mère. J'ai même été devant mon grand-père parce que j'étais d'une autre trempe, en fait. Elle étouffe tout. La famille étouffe tout et tout le monde met un gros mouchoir et vit comme ça. Et je pense que son affect, il est là, quoi, en fait. Comment dire, quand j'ai parlé, toute la famille m'a tourné le dos. Donc, en fait, je suis seule, quoi. Voilà.
Heureusement que vous en avez parlé, Eva, mais bon, là, ils sont plus vivants, vos grands-parents, j'imagine.
Bah, ma grand-mère, si. Ouais, ouais. Et faut se taire, faut rien dire. Voilà, elle l'encense, d'ailleurs.
Vous n'avez pas pu dénoncer votre grand-père, c'était trop tard.
Ah non, ouais, ouais. Ouais. Puis, bah,
donc votre grand-mère,
pas,
elle savait. Elle savait pour votre mère et vous.
Ah oui.
Et elle n'a rien dit.
Ah oui, oui.
Donc...
Puis pour ses autres filles, pour. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
ah, parce qu'en fait, votre mère avait d'autres sœurs.
Oui, ouais.
Qui elles-mêmes ont été abusées par leur père.
Ah oui, ah oui, oui, ah oui, j'ai sûr. Oui, mais et pas... bon bah je me doute que à mon avis je suis pas la fille d'un père qu'on m'a soi-disant dit parce qu'apparemment ils ont forcé ma mère à se marier parce que c'était l'époque, hein, fallait pas d'une fille mère, donc voilà.
Et vous pensez que vous êtes la fille de votre grand-père?
Oh oui, moi je le pense, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, c'est tout. Je passerai dessus, je ferai rien de.
Votre mère, elle parlera pas. Elle c'est fini,
non,
elle dira rien.
Ouais. J'ai
pour
essayé,
y faire, vous
hein,
savez, une recherche maintenant avec les tests ADN, hein, vous allez trouver tout de suite. Hein.
Bah oui, le problème, c'est que mon grand-père est mort.
Mais c'est pas grave. C'est
et
pas grave.
En fait, on fait comment?
Ah bah c'est vous, c'est un test qu'on fait sur.
Bon, après j'y ai pensé, mais je me suis dit on va où, quoi. Voilà, ça m'amènera rien de plus, je pense.
Ça vous amènera pour vous une vérité importante pour savoir où vous situez, parce que de pas rester comme ça dans ce tabou et ces mensonges familiaux et surtout ces abus. Je sais pas ce que vous en pensez.
Après, moi, c'est surtout qu'est-ce que je fais par rapport à cette maman? Comment j'arrête de souffrir quand je la vois, quand en fait, toi, j'ai plus de même mon anniversaire, hein, elle est incapable de savoir la date de mon anniversaire. Quoi. Elle a toujours été. Quoi.
Là, vous nous décrivez une situation où votre mère, elle est elle-même totalement en trauma psychique,
oui,
sans doute
ouais,
très, très grave.
Que...
Et donc, elle est forcément complètement coupée de qui elle est pour survivre. Votre mère, elle doit être depuis toujours en mode survie. C'est difficile parce que vous dites qu'est-ce que je fais de cette mère-là? Et puis pour vous aussi, moi je suis inquiète quand je vous entends et quand j'entends votre histoire parce que vous aussi, vous portez des choses excessivement lourdes. Vous vous êtes aidée? Il y a quelqu'un auprès de vous? Enfin, comment ça se passe? J'entends que vous avez des enfants.
Moi, mes enfants sont grands, quoi. C'est pareil, hein. Ma vie a été chaotique, évidemment, puisque de toute façon, on démarre mal, donc voilà. Mmh. Après, au niveau de l'aide, je me suis dit que là, il fallait que j'aille voir quelqu'un. Alors...
Oui. Ah, zut. Eva? Ah, ça a coupé. Je pense qu'on vous a perdu et que ça a dû couper la liaison, Eva. Donc, on va passer un disque en espérant pouvoir vous rappeler tout de suite. Ça a coupé net, c'est peut-être un problème de portable. Donc, on passe un disque et on espère vous retrouver juste après.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sophie Peters.
Eva, vous êtes là?
Oui.
Oui, ben, vous avez perdu. Oui. Vous aussi, ouais, hein, vous m'entendiez
oui.
plus? Oui, ben non,
non
vous
non,
y pouvez rien
coup,
quelquefois.
Coupé,
oui, c'est ça, quelquefois, là, voilà.
Ouais,
le direct.
Oui, non, donc je vous disais, j'ai été voir une psychologue, oui. Mais elle m'a expliqué, alors une fois, il n'y a pas si longtemps, parce que je diffuse quelque chose,
oui.
Mais en fait, elle m'a expliqué qu'elle était psychologue analytique et pas comportementale, et j'ai des problèmes évidemment de nourriture. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça correspond ? Parce que moi, je ne connais rien en psychologue, est-ce que j'ai été voir la bonne personne ? Je ne suis pas sûre. Quoi, voilà.
Bah, vous, c'est d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu quand même dans tout ce qui est abus sexuel dans l'enfance et dans l'inceste, parce que en fait, ça, c'est le départ de plein de symptômes, sans doute chez vous, à la fois comportementaux et d'autres. Et votre histoire, elle est excessivement lourde, Eva.
Mais vous pensez que si je reparle tout ça, parce que ça pour moi, j'ai passé. Donc, vous pensez que si je remonte tout ça, ça va faire que je vais prendre du recul par rapport à cette maman.
Parce que c'est un peu ce que dit Adeline, qui envoie un message en disant, voilà, il me semble que Eva ne peut que mettre de la clarté dans son histoire pour ses propres enfants. J'entends que vous êtes maman vous aussi, et que peut-être ça aidera sa mère. Donc il ne faut pas l'attendre, mais c'est le fait que vous meniez tout ce travail-là qui va permettre de réparer toute la chaîne généalogique qui, elle, est abîmée. Sinon, alors, sans bien sûr que vos enfants aient vécu la même chose, du moins je l'espère, enfin, qu'avec leur père.
Non, mes enfants ont une histoire dure avec leur père, mais voilà, moi je ne les ai jamais laissés là-bas, quoi, ça c'est clair. Quoi.
D'accord.
Contrairement à ma mère, parce que j'avais dit à ma mère, pourquoi tu m'as laissé enfant.
Et qu'est-ce qu'elle a dit ?
Et elle m'a dit, je ne croyais pas qu'il allait faire ça avec toi. Voilà, c'est un truc de dingue, quoi. Voilà,
comme vous dites, c'est un truc dingue. Alors c'est sans doute aussi. Un milieu, une région, une époque, c'est tout ça à la fois.
Ouais, je sais pas.
Ouais, non, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je veux même pas. Je veux même pas porter de jugement parce que pour moi, c'est tellement grave.
Bien sûr. Non, c'est pas porter de jugement, c'est prendre des éléments qui ne sont pas des éléments d'excuse, mais de compréhension. Quand on voit dans le documentaire la LCP des années 70 où la sexualité avec les enfants, ça n'avait pas l'air d'être tabou, hein, donc dans le reportage qu'a montré la chaîne. Donc on voit qu'on arrive de loin. On arrive de loin aujourd'hui, hein, même dans des films ou des. Voilà.
Là, quand j'ai demandé explication, même ma grand-mère était là, elle m'a dit « Ouais, mais tu sais, tu devrais comprendre, ton grand-père, il a subi des abus aussi. » Enfin, voilà. C'était ça, quoi.
Ouais,
voilà. Et puis, il fallait se taire, et puis il fallait continuer, quoi. Voilà. Et puis, ça n'empêche pas de vivre. Pas maintenant, mais dans ma vie, j'ai fait des tentatives de suicide, évidemment. Il y a eu des moments très durs où tout remontait. Ma mère n'est jamais intervenue. Je me souviens d'une fois où elle a dit comme ça, « Ouais, ça m'étonne pas, de toute façon, t'es plus faible que moi. » Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Alors pour moi, c'était plus un appel au secours, parce que ces tentatives, je les faisais parce que j'étais tellement vide d'elle, en fait.
D'elle et surtout de l'histoire, parce qu'il y a un grand blanc dans votre histoire. Vous êtes vide d'elle parce qu'elle ne vous dit pas qui est vraiment votre père et que vous avez plus qu'un sérieux doute ou en tout cas une suspicion par rapport à son père à elle. Donc c'est vraiment important pour vous d'avoir cette clarté là. Si au moins il y a quelque chose, on va dire, qu'elle pourrait vous devoir, c'est la clarté sur votre histoire.
Ouais, mais ça ne le fera
pas.
Je pense que c'est trop douloureux pour elle.
Ouais,
quoi. Je
ne
sais pas, c'est comme si c'était mort. Quoi. Et en plus,
c'est bien dit, c'est ça.
Il n'y a pas de discussion entre elle et moi. Elle donne de l'importance à tous ceux qui gravitent autour de moi. Mon conjoint, mes enfants sont importants pour elle. Ils existent, mais moi, pas du tout.
Oui, parce qu'elle vous nie en tant que fille, comme vous dites. Elle est dans la confusion.
Ouais.
Elle vous prend par moments pour votre sœur parce que, en fait, comme tout a été transgressé dans sa vie, elle a pas les limites, elle a surtout pas aux bons endroits les bonnes représentations psychiques pour elle de son rôle de mère, de ce que c'est qu'un père, de ce que c'est que d'avoir une fille. Si vous voulez, tout est extrêmement confus.
Ouais. Et elle arrive, donc quand elle a une discussion avec moi, c'est vite fait. Elle écoute très peu d'ailleurs ce que je dis en général. Mmh. Et tout ce que je fais, c'est mal. Et si jamais je parle, surtout, elle me diabolise, quoi. Elle évite, quoi, les discussions. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de discussion ou de conflit avec moi, surtout pas, quoi. Je suis ouais, mise à part. Je suis celle qui est pas comme tout le monde, qui fait pas comme tout le monde. Et
mais
voilà,
parce que sans doute que pour elle
a... Je pense que je dérange en tout cas.
Parce que vous l'avez dérangé, enfin vous êtes dérangé un ordre, alors pas vous évidemment,
oui.
Ce bébé
ouais.
qui est né. Et ce tabou et cette honte est quelque chose qu'elle a porté et qu'elle a dû garder. Enfin, on peut imaginer tout ce qui s'ensuit sur le plan psychique. Donc malheureusement, Eva, vous n'y pouvez rien. Hein, mais vraiment, vous n'y pouvez absolument rien. Vous êtes totalement...
C'était ça, en fait. Je me disais, comment je peux me sortir de cette attente. Pouvoir la voir, lui parler normalement et sans rien attendre d'elle. Même si elle ne me donne rien, repartir en étant juste contente de l'avoir vue, c'est tout.
Oui, j'entends. Mais là, vous êtes en train de... Oui, mais vous êtes en train de me parler d'une relation, on va dire, un peu... idéal, en tout cas, j'aime pas le mot normal,
ouais.
mais naturel,
ouais,
voilà, plutôt
ouais.
d'ordre naturel entre une mère et une fille. Ce naturel-là, ouais. dans le contexte que vous décrivez de votre naissance de la famille, ouais. il est impossible, parce qu'il est
donc
complètement abîmé.
Voilà, et alors comment je peux sortir de ça, finalement?
Par
parce
un travail
du coup,
sur vous. Vous pouvez en sortir parce que vous pouvez rencontrer votre mère à un autre endroit, à un autre niveau, dans sa souffrance. Parce que si
ouais.
vous connectez à la vôtre et à votre histoire, bah forcément, vous croisez celle de votre
ouais,
mère.
Ça va pas, ouais.
Et qu'en étant dans votre histoire, vous allez être avec celle de votre maman et réparer, d'une certaine manière, en tout cas, guérir quelque chose de vous deux en même temps. À chaque fois que vous allez faire quelque chose pour vous, dites-vous bien une fois que vous allez le faire pour votre mère.
D'accord.
Ah oui, parce que vous êtes... Enfin, bien sûr, mère et fille intimement liées, mais surtout dans un drame et quelque chose qui, est pas dans l'ordre de la nature.
Ouais,
donc, donc il y a quelque chose pour vous à remettre dans l'ordre. Ah oui, il y a Louisa qui vous donne une très bonne indication, je trouve. Elle dit, moi, j'ai fait une constellation familiale, réparation très puissante et qui libère les générations suivantes. Je vous le souhaite, dit Louisa. Oui, ça, ce serait bien, Eva.
Je
ne sais pas dans quelle région vous faites, mais il y a des psys, regardez sur Internet dans votre région, qui font ça.
Moi, je vais noter. Déjà,
ouais, absolument.
Voilà.
Parce que vous avez à la fois travaillé sur le plan familial et puis sur le plan de la femme, de votre histoire et du trauma psychique et de la reconstruction. Hein, mais la méthode des constellations familiales, en fait, c'est du transgénérationnel. Hein, ça a été développé dans les années 90.
Mais travaille aussi sur l'histoire personnelle. Ça,
oui, absolument. Hein, c'est basé sur la mise à jour de l'inconscient familial par le biais de jeux de rôle et de psychodrames. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin, bien sûr, d'y aller avec des membres de votre famille, mais c'est quelque chose que vous faites dans le cadre d'un groupe. Et puis, en fait, les individus...
Ah, c'est en groupe ?
Oui, absolument.
Oh, alors, c'est terrible, ça, pour moi.
Parce que, dites-moi, oui ?
Ah, moi, j'angoisse complet. Moi, les groupes, les foules, là, j'ai beaucoup de mal avec les interactions. Hein.
Mais justement, ça m'étonne
l'était
pas.
Moins
ça m'étonne
avant.
Pas. Ouais, ouais.
Ah ouais,
ah
ça
ouais.
l'était moins avant. Mais là, je m'éloigne, c'est un truc de fou, quoi. Je m'éloigne, même dans ma vie, je fais tous des choix pour être tranquille dans
d'accord.
mon coin.
Mais là, Eva, c'est très différent parce que, comme c'est un groupe de thérapeutique, vous allez être protégée par le cadre, par le thérapeute qui mène le groupe. Et puis, dans une session de groupe, vous n'interagissez pas avec les personnes telles que, enfin, comme dans la vie courante, c'est que vous allez choisir à l'instinct des personnes qui vont être des représentants, des membres du système de votre famille. Et vous allez, par le biais des émotions que vous allez ressentir dans les interactions, comprendre et retrouver des morceaux de votre histoire. Donc, ça va être très, très puissant pour vous. alors que vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas besoin de vous raconter vos vies. Ou de... c'est pas du tout le principe. Hein. Ce n'est pas une thérapie groupe où chacun parle de soi. Et... Mm-hmm. Non, c'est chacun est là pour servir aux autres, pour être une projection de sa propre histoire familiale et la mettre à jour. Mais vous êtes aidé et vous êtes protégé par un thérapeute de groupe qui est là et qui tient le groupe. Donc vous, il ne va rien vous être demandé, Eva, quand vous dites « Ah, ben j'ai du mal avec les autres ». Mais en revanche, quand vous me dites ça, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus une indication pour vous, parce que ça va être très puissant et très aidant. De plus avoir cette peur de l'autre, de qui je suis pour l'autre, parce que ça aussi, pour vous, c'est très trouble, forcément. Forcément, qui je suis pour l'autre, où est ma place, est-ce que l'autre est une menace,
ça, comment j'ai... Bah
oui. Ouais,
ouais. Et d'ailleurs, je me mets beaucoup, beaucoup en retrait. J'ai des attitudes, de, bon, on va dire entre guillemets, bon, parce que j'ai un métier qui fait ça aussi, je suis beaucoup sur la route, mais je suis très, très parano, je fais attention à tout
ben
tout
oui,
ce qui m'entoure, quoi. Je suis en alerte. Toujours.
Ouais, c'est pas ça. Ça c'est pas de la paranoïa.
Juste attendre que je sois rentrée chez moi.
C'est de la vigilance.
C'est comme
bien sûr.
Ouais. Et très souvent, je m'entoure quand je suis chez moi, je m'entoure d'un chien ou d'animaux.
Très bien.
Parce que,
très bien.
Parce... je sais qu'eux, ils ont le bon comportement. Donc du coup, je sais.
Ah, c'est intéressant. D'accord. Vous savez qu'ils ont et c'est pour vous une aide ou un guide pour arriver à vous caler. D'accord.
Oui, c'est ça. La nature et les animaux, c'est ce qui me cale, en fait.
Vous avez raison.
Et je sais que dans mon environnement, si l'animal, il est tranquille, ça veut dire que je suis tranquille aussi. Parce que c'est qu'il n'y a rien, parce qu'eux, ils savent tout, quoi. Voilà,
c'est très touchant ce que vous nous dites, Eva, parce que vous voyez de quelle façon vous avez, en mode survie, reconstitué dans votre vie d'adulte ce qui a manqué dans l'enfance, c'est-à-dire ces repères, c'est-à-dire une vie pas naturelle, finalement, avec des adultes qui sont conduit de façon monstrueuse, hein, donc pas dans l'ordre de la nature. Comment, par le biais des animaux, vous retrouvez quelque chose de l'ordre du sain, du beau et de l'éthique? Ouais, c'est magnifique. Ouais. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de vous encourager, Eva, ce soir, à avancer, à pas rester avec ça. C'est vraiment, j'insiste, c'est lourd, c'est particulier, c'est envahissant
donc,
pour vous.
Allez, vous disiez psychologue de constellation familiale, ouais. et sinon, c'est tout que ça.
Non, et sinon, c'est tout ce qui est des traumatismes d'agression sexuelle dans l'enfance. Allez regarder le site de Muriel Salmona, qui s'appelle mémoiretraumatique.org. Et regardez, parce qu'il y a une liste de thérapeutes qu'elle a formée par région, et normalement, vous devez trouver quelqu'un dans votre région, ou appelez-les pour vous indiquer quelqu'un qui est formé... Voilà, plutôt à ces aspects-là. Et puis, vous pourrez éventuellement faire des séances de MDR, vous verrez. Moi, je suis tout à fait convaincue que la constellation familiale, dans un premier temps, peut énormément vous aider, vous soutenir. Et réparer sans doute beaucoup de choses pour vous.
Je vais essayer de trouver. D'accord. Hein,
ça, vraiment, ce serait une bonne indication. Mmh. Mais vous restez pas toute seule avec tout ça. C'est beaucoup, beaucoup trop lourd. D'accord ?
Ouais, je pensais que c'était rien. Quoi,
non,
tout,
c'est pas rien.
Ma vie, parce
stop,
que,
Eva, c'est que... pas rien.
Voilà, quoi,
c'est pas rien.
Bon,
d'accord,
voilà, je vais faire. Ouais. Hein,
il y a Lille qui dit « Une femme augmentée de l'instinct sûr de l'animal à pas de loup, vous allez y arriver. » C'est joli. Vous allez y arriver à pas de loup.
Parce que là, vous voyez, j'ai attendu plus de 50 ans et là, je suis vraiment décidée à avancer et poser le truc.
D'accord.
Quoi. Donc,
d'accord.
Je pense que... ça devrait faire.
Quoi. Je vous embrasse fort, hein, Eva.
Ouais,
bonne nuit à vous. Hein. Et on est là au besoin. Merci. Bonne nuit.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et merci à vous pour ce joli moment, comme chaque soir. Merci à Marie-Odile. Merci à Caroline. Et merci à Eva. Et comme il a été question des mamans ce soir, eh ben on se quitte et on s'endort avec Guy de Maupassant. La petite pluie d'étoiles. On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel, comme de vivre. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous laisse en compagnie de Fabrice d'Almeida au cœur de l'histoire. On se retrouve demain, et demain c'est à 22h30 et c'est promis. À demain. Et bonne journée fériée.